Annie Regon présente Du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bonjour, ici Annie Regon, bienvenue dans ce Carrefour des Arts. Nous allons parler aujourd'hui de Émile Malle et l'art baroque. Le baroque, bien sûr, c'est un mouvement artistique qui pendant longtemps a eu assez mauvaise presse, qui finalement a retrouvé grâce aux yeux du public, essentiellement d'ailleurs par le biais de la musique, et qui aujourd'hui est à peu près unanimement apprécié. Mais il n'en a pas été ainsi tout le temps. Et en fait, Émile Malle, que l'on connaît surtout comme spécialiste de l'art médiéval, a été un des grands découvreurs de l'art baroque, bien qu'il n'emploie pas beaucoup ce mot baroque, puisque le principal ouvrage que nous allons interroger aujourd'hui sera L'art religieux après le Concile de Trente. En effet, Émile Malle a eu une longue carrière et cette carrière a connu des évolutions. Au début de sa vie professionnelle, il s'était intéressé d'abord à l'art gothique, puis ensuite à l'art roman, et enfin à l'art religieux à la fin du Moyen-Âge en France, ouvrage qu'il avait publié en 1908. Et dans la conclusion de cet ouvrage, il écrivait « Après le Concile de Trente, toutes nos traditions commencèrent à disparaître les unes après les autres. On vit le grand arbre qui avait donné tant de fleurs, languir, se dessécher et mourir. » Donc on aurait pu croire que Émile Malle pensait qu'après le Concile de Trente, eh bien, l'art religieux avait perdu son âme en quelque sorte. Et en fait, il n'en va pas ainsi. Il a très bien démontré qu'après le Concile de Trente, justement, il y a un renouveau de l'art religieux. Et donc il va donner toute cette importance à ce sujet, souvent qui avait été complètement laissé de côté par les spécialistes d'histoire de l'art qui s'étaient davantage penchés sur les formes et puis aussi davantage sur l'iconographie officielle, sur l'iconographie des rois, sur l'iconographie des batailles. Enfin, il n'y avait pas, à l'époque d'Émile Malle, de spécialistes qui se soient penchés sur l'art religieux après le Concile de Trente. Alors, il y avait eu, bien sûr, quelques spécialistes qui avaient étudié l'iconographie chrétienne en général, comme par exemple Diderot, qui en 1844 avait donné une instruction devant servir aux membres du comité scientifique et historique pour identifier les œuvres. Et le sous-titre était pour une instruction officielle, c'était au journal officiel, hein, « Histoire de Dieu ». Donc ça surprend un petit peu, mais enfin c'était en 1844. Le père Caillé, en 1867, avait écrit « Les caractéristiques des saints dans l'art populaire ». Mais rien de particulier, en fait, sur la période qui nous concerne, donc qui va de la seconde moitié du XVIe siècle jusqu'à la Révolution. Un autre chercheur, Charles de Job, que Émile Malle connaît mais qu'il a peu utilisé, avait écrit un article intitulé « De l'influence du Concile de Trente sur la littérature et les beaux-arts chez les peuples catholiques ». Essai d'introduction à l'histoire littéraire du siècle de Louis XIV. Et ça avait été édité après en 1884. Et ça a d'ailleurs été réimprimé en 1969 à Genève. Alors cet ouvrage a un titre très alléchant par rapport à notre sujet. Mais malheureusement, quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que Charles de Job a bien eu quelques bonnes idées, mais que en fait, il dit ceci en gros, que l'art baroque est né en Italie, mais qu'il ne s'est véritablement épanoui en France, et que si il y avait eu un pape français, alors là, ça aurait été vraiment une apothéose extraordinaire. Donc, un discours un peu nationaliste qui, en fait, ne fait pas beaucoup avancer la recherche. Dans son Histoire de l'art français, Henri Lemonnier s'intéresse à l'histoire de l'art français au temps de Richelieu et de Mazarin, mais en fait, il s'agit surtout de l'art royal. Et en 1911, Marcel Raymond, qui était un chercheur intéressant parce qu'il avait beaucoup travaillé sur l'Italie, il était lui-même professeur d'italien à l'université de Grenoble, Marcel Raymond écrit « L'art de la contre-réforme », ses caractères généraux, le titre aussi est intéressant, mais il écrit ceci « Christianisme, grandeur et tristesse, tels sont les traits de l'art qui se constituent à Rome au milieu du XVIe siècle ». Donc, grandeur et tristesse, enfin grandeur, on peut être d'accord, mais tristesse, Émile Malle nous démontrera le contraire. Donc, il n'utilise pas beaucoup Marcel Raymond. Quant à Charles Blanc, qui a fait une très monumentale histoire de la peinture française, eh bien, en fait, il traite assez peu des sujets d'iconographie. L'histoire de la peinture de Charles Blanc est un monumental ouvrage de plusieurs volumes dans lequel Charles Blanc a fait appel à plusieurs chercheurs, mais il a lui-même rédigé ce qui concerne la peinture française. Et donc, en fait, on se rend bien compte que l'iconographie n'intéresse pas beaucoup. Alors, Émile Malle, comme on l'a déjà vu, va s'intéresser, lui, aux images, mais toujours en les confrontant avec des textes contemporains. Et en fait, comme on l'a déjà dit, il a eu une très longue carrière. Il a commencé par travailler sur le Moyen-Âge. Mais entre 1923 et 1937, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, il est directeur de l'École française de Rome. Et comme c'est quelqu'un qui a vraiment une grande acuité et qu'il s'intéresse vraiment à tout ce qu'il peut l'environner, il passe de nombreuses journées à se promener dans les églises, qui sont au nombre de 1000 quand même à Rome, il faut le rappeler. Alors il a une méthode de promenade qui est assez méthodique. En fait, il visite les églises à diverses heures de la journée, si bien qu'il voit des éclairages divers sur les œuvres. Il prend énormément de notes et donc il confronte ce qu'il voit avec les textes contemporains des œuvres, ce qu'il avait fait pour l'époque médiévale. Alors il faut préciser que dans ces années 30 du XXe siècle, c'est une époque pendant laquelle le baroque, comme je l'ai déjà dit, n'avait pas très bonne presse, et c'est même une période pendant laquelle on a débaroquisé certaines églises, comme par exemple l'église Sainte-Sabine, qui se trouve sur l'Aventin, à laquelle on a voulu redonner son aspect paléo-chrétien, qu'elle a effectivement retrouvé, mais on a un peu l'impression qu'elle a été raclée, cette pauvre église. Alors donc, Émile Malle, lui, s'intéresse à tous ces décors de stucs, de peintures, de sculptures qui ornent les églises de Rome et naturellement, il fait des découvertes très intéressantes parce que il y a de très nombreuses œuvres qui n'avaient jamais été étudiées, même pas par les chercheurs italiens. Les chercheurs italiens s'étaient intéressés à partir de 1911 surtout à Caravage, à la suite de la thèse de Roberto Longhi. Caravage avait été vraiment une révélation. Mais ça n'est qu'un aspect de l'art baroque. Et donc, Émile Malle va faire un véritable travail presque général d'études sur l'art baroque dans les églises de Rome. Et puis, il va également se rendre à Naples. Il va également aller dans d'autres villes pour essayer de mieux connaître, de mieux comprendre l'évolution de cet art baroque et surtout donc des sujets qui sont traités. Puisque, je le rappelle, à cette époque-là, on s'intéressait assez peu au sujet. On considérait que le sujet n'était pas très important et que donc, il fallait s'intéresser surtout à la forme. Et donc, au cours de ces promenades, il se rend compte qu'on peut appliquer à l'art baroque la même méthode qu'il avait appliquée à l'art médiéval, et il écrit donc dans La Religieux après le Concile de Trente, « Je dus reconnaître que je m'étais trompé », donc en revenant à la première citation, où il disait que le bel arbre avait dépéri. Donc, « Je dus reconnaître que je m'étais trompé », c'est ce qui nous arrive presque toujours quand nous prenons nos impressions pour des idées. Quand nos conclusions ne naissent pas de la longue et patiente étude des faits, la vérité est qu'il y a eu au XVIIe siècle un art chrétien. Et c'est donc ce qu'il s'est appliqué à démontrer avec évidemment le brio qu'on lui connaît parce que naturellement, vous le savez, c'est quelqu'un qui est très scrupuleux et qui est en même temps un grand écrivain. Il n'avait pas usurpé son fauteuil d'académicien. Il a donc par sa plume beaucoup de suggestions. Et il écrit encore dans cette introduction à l'art religieux après le Concile de Trente. L'art chrétien ne devait pas mourir avec le Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, le sentiment religieux était assez puissant pour pouvoir créer un art nouveau. Cet art ne fut pas l'œuvre de la fantaisie individuelle comme on le croit d'ordinaire. Suscité par l'Église et surveillé par elle, il eut comme l'art du passé ses traditions et même ses règles. Une iconographie nouvelle naquit qui, elle aussi, offre un vif intérêt car le génie du temps s'y exprime tout aussi clairement que celle d'autrefois. Donc c'est vraiment très clair. On se rend compte qu'il porte un regard nouveau sur les œuvres religieuses de cette époque. Comme très souvent, le livre qu'il publie en 1932 est en fait une sorte de rassemblement de contributions qu'il avait déjà données dans des revues. Son intérêt donc a commencé à s'éveiller pour les œuvres de cette époque à la fin des années 20. Et la religieux après le Concile de Trente donc est une sorte de... ce n'est pas une compilation parce qu'il y a évidemment une introduction, une conclusion qui sont nouvelles, mais il reprend des articles en les retravaillant qu'il avait déjà livrés à des revues comme par exemple la Revue des Deux Mondes. Il avait... publié dès 1927 un article intitulé « Les clés des allégories peintes et sculptées au XVIIe et XVIIIe siècle, en Italie d'abord et en France ensuite ». La même année, « Les clés des allégories peintes et sculptées à Versailles », là c'était quelque chose de totalement nouveau parce qu'à Versailles, finalement, le symbolisme chrétien est beaucoup plus présent qu'on peut le penser. Il donne également un article très novateur dans la Revue de France sur la chapelle Pauline et le protestantisme, où il montre bien que le côté militant du Concile de Trente s'exerce à travers les images. Et puis également, le martyr dans l'art de la contre-réforme, autre article publié dans la Revue de Paris. Également, la représentation de l'Évangile après le Concile de Trente, qui est publié dans la Revue des Deux Mondes en 1931. Et enfin, la décoration des églises des grands ordres religieux au XVIIe siècle, publiée dans la Revue de Paris en 1932. Alors tout cela est repris dans l'art religieux après le Concile de Trente, avec évidemment des corrections et puis également un essai de synthèse par l'introduction et la conclusion. Il avait fait de même d'ailleurs pour ses autres œuvres, en particulier l'art religieux à la fin du Moyen-Âge. Donc, il constitue un corpus d'œuvres et un corpus de textes. Il étudie, par exemple, le texte de Cesare Ripa, qui s'appelle « L'Iconologia », avec sa traduction française par Baudouin au début du XVIIe siècle. Il se penche également sur les écrits des jésuites érudits comme le père Coton ou le père Richaume. Il en tire énormément de conclusions qui sont très intéressantes et surtout extrêmement novatrices à cette époque. De plus, il a choisi un large corpus, aussi bien pour son découpage chronologique, puisqu'il commence après le Concile de Trente qui se termine en 1563, pour aller jusqu'à la veille de la Révolution. Et l'espace considéré est également assez nouveau, puisqu'il s'intéresse, on peut dire, à l'ensemble de l'Europe chrétienne, à l'Italie, la France, l'Espagne, les Flandres, l'Allemagne, tout en évidemment conservant un regard particulier pour chaque école nationale, mais en même temps en se livrant à des comparaisons qui sont vraiment extrêmement éclairantes. Nous sommes dans le Carrefour des Arts aujourd'hui et nous nous sommes arrêtés à l'œuvre d'Émile Malle et un aspect moins connu peut-être que ses travaux sur le Moyen-Âge. Nous parlons aujourd'hui de Émile Malle et l'art baroque. Alors j'ai essayé de vous expliquer comment Émile Malle en est venu à s'intéresser au baroque grâce à son séjour à Rome, qui a duré quand même 14 ans, pendant lequel il a eu le temps de visiter de nombreux monuments, les églises mais aussi les musées. Il a également été en contact avec des conservateurs, avec des historiens. Et donc de là est sorti cet ouvrage, L'art religieux après le Concile de Trente, dont je vous ai donné un petit peu la genèse et aussi un petit peu, l'objet spatio-temporel, c'est-à-dire une chronologie quand même assez longue et également un territoire très vaste. Donc dans cet ouvrage, l'auteur est vraiment très rigoureux, très méthodique, enfin comme il l'a toujours été, c'est-à-dire qu'il se base sur des textes et il essaye de comprendre comment à partir de là l'artiste a pu avoir toute son imagination, toute sa créativité pour pouvoir créer des œuvres. Il ne montre pas, comme avaient essayé de le montrer certains disciples de Adolfo Venturi, un grand historien de l'art italien du début du XXe siècle, il ne pense pas, lui, que la contre-réforme a complètement annihiler la créativité des artistes. Au contraire, il s'ingénie à montrer que, à travers une doctrine théologique, le génie individuel de chaque artiste peut s'exprimer grâce bien sûr à l'inspiration, à l'inventivité et enfin ce qui fait vraiment, on peut dire, la spécificité des artistes. Alors ceci dit, il est quand même assez réticent devant les analyses par trop individualistes des artistes qui sont celles, en fait, qui sont issues de la critique romantique. Enfin, je trouve qu'il garde un très bon équilibre entre ce qui est donné par le commanditaire, le maître d'ouvrage, donc les ordres religieux, souvent les prélats, mais aussi les particuliers, et les artistes. Il montre très bien comment le conflit entre les catholiques et les protestants a pu, d'une certaine façon, susciter, on pourrait même dire exciter, la créativité des artistes catholiques. Parce que chez les protestants, on bannit l'image. Alors à la fin du Concile de Trente, dans les dernières réunions du Concile de Trente, qui ont eu lieu en 1563, non pas à Trente d'ailleurs, mais à Bologne, les pères du Concile s'étaient interrogés sur l'image. Ils avaient essayé de définir une politique de l'image vis-à-vis des protestants. Et il y avait deux solutions qui s'offraient à eux, ou bien supprimer complètement l'image et faire encore plus austère que les protestants, ou bien alors, au contraire, prendre le contre-pied et essayer d'éblouir le visiteur de l'église par des images foisonnantes et qui doivent évidemment élever l'esprit. Dieu merci, c'est la deuxième solution qui a été choisie, enfin pour nous les amateurs d'art en tout cas, parce que la disparition totale de l'image, ça aurait quand même été très triste. Et il ne faut pas oublier que ce que je dis sous forme de plaisanterie, ça peut aller très loin parce que l'image en soi, c'est vraiment un sujet très intéressant. Et si la photographie est apparue très tôt en France et enfin dans d'autres pays européens, c'est parce que je pense que l'image était vraiment un sujet très important, enfin une préoccupation très importante. Donc, Émile Malle a très bien montré comment les artistes ont été stimulés en quelque sorte par l'ambiance religieuse de l'époque et à quel point cette nouvelle manière de concevoir la décoration de l'église et l'ornementation en général des lieux de culte a pu être importante pour cette activité artistique qui a été très intense, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Italie, qu'en Espagne. Et même, on pourrait ajouter, il n'en parle pas, mais le phénomène était un peu le même au Nouveau Monde aussi, où par exemple au Mexique, on a des exemples d'églises baroques qui sont vraiment très très belles et très décorées, tout en tenant compte aussi de savoir-faire antérieur à l'avenue des Espagnols. Donc tout ça, ça a formé un baroque très original et très beau, qu'on peut aussi comparer d'ailleurs avec la musique de la même époque. Donc Émile Malle a très bien analysé tout ça. Et ce qui est vraiment bien avec lui, c'est qu'en plus, comme je l'ai déjà dit et je pense que les auditeurs le savent, Émile Malle était vraiment un grand écrivain. À l'époque où il n'y avait pas énormément d'images dans les livres, où les reproductions étaient moins nombreuses que maintenant, et surtout où les reproductions étaient en noir et blanc et de petite taille, il a su très bien évoquer de manière vivante la manière dont les artistes travaillent. Je vous cite simplement, pour exemple, une comparaison qu'il fait entre les artistes italiens et les artistes français, donc à cette époque. Voilà, je le cite. Il semble que les grands peuples chrétiens laissent deviner quelque chose de leur génie dans ces images de l'extase. La France, quand elle n'imite pas l'Italie, quand elle est elle-même, ne représente pas l'anéantissement mystique, mais l'union avec Dieu par la prière. Jouvenet ne nous montre pas, comme Mola, donc Mola qui est un peintre napolitain, Saint Bruno foudroyé par la vision qui lui apparaît dans le ciel, mais à genoux dans sa cellule, la tête appuyée au pied du crucifix. Il peint Saint Jean de la Croix, non pas soulevé par l'extase, mais contemplant agenouillé un tableau qui représente la passion. L'attitude, la lumière blonde, le silence d'une bibliothèque de couvent, tout éveille l'idée d'une fervente prière, non d'un ravissement. Il nous semble voir un grave bénédictin de Saint-Maur, non un fils spirituel de Sainte-Thérèse. Philippe de Champagne a fait le chef-d'œuvre où respire l'âme religieuse du XVIIe siècle français. La sœur Catherine de Sainte-Suzanne et la mère Agnès, tableau qui se trouve au Louvre, prient dans une cellule, pauvre et nue, mais qu'emplit une mystérieuse présence. Elles attendent un miracle. Il n'y a rien de plus simple, de plus modeste, de plus doux que cette jeune religieuse étendue les mains jointes, le regard fixé sur Dieu qu'elle voit, et qui ne l'étonne pas tant, tant elle est habituée à vivre avec lui. Dans cette belle œuvre, Philippe de Champaigne fait revivre le génie du Moyen-Âge. Donc voilà comment Émile Malle évoque l'art religieux après le Concile de Trente en France. Mais il écrit encore d'autres très belles pages. Enfin, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Le lecteur doit être ému par la lecture, même sans voir le tableau. C'est ce qui, enfin, à mon avis, c'est ce qui ressort de ce passage. Et il y en aurait un certain nombre d'autres passages qu'on aurait pu citer. Alors tout ça, c'est très bien, me direz-vous, mais quel a été l'impact du livre d'Émile Malle? La publication de 1932 a été, on peut dire, à la fois appréciée, mais en même temps, elle est un petit peu passée inaperçue. En 1933, Émile Malle reçoit une lettre enthousiaste de Henri Faucillon. Alors, il faut expliquer qui est Faucillon. Henri Faucillon était c'est l'autre grand historien de l'art français de la même époque, mais qui, lui, s'est intéressé avant tout aux formes et pas beaucoup à l'iconographie. Et on a l'habitude de les opposer, ce qui, à mon avis, est stupide. Mais enfin, c'est comme ça, on oppose trop souvent le fond et la forme. Alors Faucillon est très admiratif et le lui écrit dans une lettre que j'ai en partie publiée, mais qui n'a pas été très connue, en fait. Les historiens de l'art, enfin la profession des historiens de l'art est très admirative d'Émile Malle, mais en fait, l'impact reste quand même limité parce que il y a, vous le savez certainement, une interaction entre l'histoire de l'art et la création artistique du moment. C'est-à-dire que dans les années 30 du XXe siècle, on ne peut pas dire que les questions théologiques ou les questions purement iconographiques intéressent beaucoup les artistes. On est à l'époque du surréalisme, en fait, qui est vraiment alors l'époque où l'imagination doit se développer sans aucune contrainte, si bien que l'œuvre d'Émile Malle tombe un petit peu à plat. Toutefois, il y a quand même un grand chercheur américain, qui publie en Amérique, mais qui était d'origine polonaise et qui était de culture germanique, on peut dire Erwin Panofsky, qui en 1939, lui, alors, va encore beaucoup plus loin qu'Émile Malle, puisque il étudie l'iconographie en général. D'ailleurs, son essai s'intitule « Studies in Iconology ». Et ne sera traduit en français qu'en 1967, ce qui montre bien quand même le faible intérêt des Français pour ces questions-là. Mais Panofsky, évidemment, est beaucoup plus connu qu'Émile Malle, enfin dans le monde entier, parce que lui a une vision peut-être plus ample, plus générale, plus mondiale de ce problème de l'iconographie et de l'iconologie. Mais en fait, je pense que si on s'intéresse à ce sujet, il faut vraiment bien lire les deux auteurs, Émile Malle et Panofsky. Panofsky fait appel peut-être davantage qu'Émile Malle aux sciences humaines contemporaines, avec en particulier un apport de la psychanalyse qui est très important. Donc en France, finalement, on reste assez indifférent à ses travaux et à l'art baroque d'ailleurs en général. On s'obstine à vouloir affirmer qu'il n'y a pas de baroque français. Ce qui est peut-être vrai, mais ce qui est quand même contestable. Il faut attendre, en fait, les années 70 du XXe siècle pour que ressorte un intérêt pour les questions d'iconographie religieuse. Alors, je vois deux dates importantes dans ce domaine, enfin, deux démarches différentes, mais où les travaux d'Émile Malle sont largement étudiés. Donc, d'abord, une exposition des musées de Rennes et de Nice intitulée « 30 peintres du XVIIe siècle français, tableau d'inspiration religieuse des musées de province ». Et là, on voit très bien qu'en province, la commande religieuse était vraiment aussi importante qu'au Moyen-Âge. Et puis, la thèse de Madame Michèle Ménard à l'Université du Mans sur les retables de la région du Mans, qui a été vraiment initiatrice de travaux sur le baroque en province et sur le lien qui existe entre, je dirais, l'histoire de l'art et l'histoire tout court. En effet, on s'aperçoit, c'est assez intéressant, que les historiens tout court, les historiens purs, ont énormément utilisé Émile Malle, peut-être au départ davantage que les historiens de l'art. L'historien de l'art qui a peut-être le plus mis en avant les travaux d'iconographie est M. Jacques Tuillier, qui a initié de très nombreux travaux, expositions, colloques et qui a eu des disciples qui ont travaillé sur les artistes français, parisiens et provinciaux après le Concile de Trente, si bien que ça a suscité de nombreuses recherches et des expositions également qui sont, enfin, dont on trouve encore les catalogues aujourd'hui. Et je voudrais terminer cette séquence sur Émile Malle en indiquant aussi que, à mon avis, peut-être, en fait, les études d'Émile Malle ont ouvert le champ aussi à l'étude de la rhétorique à l'époque de l'après-concile de Trente. Et quelqu'un l'a très bien vu, je crois, c'est M. Marc Fumaroli, qui écrit dans un ouvrage intitulé « L'école du silence », dont je vous recommande la lecture, « Au défi du schisme et de l'iconoclastie, au défi des nations qui se figent et s'exaspèrent en état, l'Église répond par l'éloquence sacrée, la prière et les images ».